Toute la liturgie de ce dimanche nous invite à unifier notre cœur et à faire en sorte que et nos actes et nos paroles produisent de beaux, de bons fruits. Alors de prime abord, il est difficile de trouver un lien entre les très courtes paraboles de l'Évangile d'aujourd'hui. Elles ont pourtant un point commun. Elles établissent une relation entre une réalité cachée et les signes extérieurs qui permettent de l'atteindre. Alors pour avancer dans la compréhension, prenons un exemple. Voici un homme qui en guide un autre. À première vue, il sait où il va. Mais s'ils tombent tous les deux dans un trou, on découvre une réalité cachée. Le guide était aveugle. Ce qui signifie, et c'est essentiel dans la pédagogie déployée par Jésus, que pour connaître la vérité des choses, il faut de la patience, du discernement, et donc attendre la fin d'une séquence. Autre exemple, celui qui s'est autoproclamé redresseur des torts des autres, toujours convaincu de sa propre justice et qui parvient à en persuader d'aucuns, in fine, finit par donner le sentiment qu'il est incapable d'aider quiconque tant il est encombré de lui-même et de ses énormes travers. Surtout lorsqu'il commence à parler, pour reprendre la sentence de la première lecture. Ce qui est en jeu, nous le voyons bien dans ces diverses paraboles, c'est l'affirmation que la réalité profonde est d'abord insaisissable, et il faut l'accepter. Seuls les fruits peuvent révéler cette réalité. Et pour mûrir, les fruits ont besoin de temps, de durée. En effet, la première qualité à cultiver, c'est la patience, avec comme référence, comme toujours, la patience même de Dieu vis-à-vis de chacune et de chacun d'entre nous. Et à ce sujet, la courte parabole de l'arbre que l'on juge à ses fruits nous fait bien comprendre cela. Alors bien sûr, survient les questions. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Eh bien, ne nous pressons pas de juger et surtout de préjuger comme spontanément l'homme ancien nous y invite. Et à ce sujet, souvenons-nous de ce passage du livre de la Genèse avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela reste la tentation permanente de l'être humain. En réalité, ce qui est mauvais, nuisible, dans un premier temps, peut nous apparaître bon, agréable, utile. Et du reste, si tel n'était pas le cas, ce n'est pas ce que nous choisirions spontanément. Mais avec le temps, nos yeux se dessillent, s'ouvrent, et nous reconnaissons parfaitement ce qui est mauvais, destructeur, voire mortifère. Alors on s'interrogera, le bon arbre. Eh bien, frères et sœurs, regardons la symbolique biblique de la croix. Dans un premier regard, nous ne pouvons pas associer croix et arbre de vie. Et pourtant, nous pouvons l'attester avec notre expérience de vie. Nous nous apercevons que la croix, illuminée par le fait de la résurrection, peut devenir vraiment un arbre de vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attestent beaucoup de vitraux de nos églises, où la croix est un arbre vert. C'est l'arbre de la vie. Et puis nous voyons que l'Évangile se conclut par l'évocation de ce qui sort de notre bouche, l'usage des mots. Cela signifie que la parole, notre parole, est présentée par Dieu lui-même comme le fruit ultime de l'arbre que nous sommes les uns et les autres. Dans une première écoute, cela peut paraître surprenant. En effet, nous sommes souvent habitués à opposer actes et paroles. Or, toute la Bible nous invite à unifier actes et paroles. En effet, souvenons-nous de l'expression qui ouvre l'Évangile de saint Jean. Au commencement était le Verbe. Le Christ est le Verbe, la parole vivante de Dieu. Et voici que cette formule signifie que tout commence par une relation de parole. La parole bienveillante manifeste la bonté du cœur parce qu'elle établit une relation vraie, basée sur l'amour. Et la parole mauvaise, à l'inverse, devient, nous le savons bien, un outil défectueux qui abîme, qui peut même détruire. Les paroles sont en or si elles débordent du trésor intérieur animé par l'Esprit Saint. Et à l'inverse, les paroles sont délétères si elles sortent d'un cœur encore divisé, en proie à ses propres contradictions. Et Jésus nous fait comprendre qu'infailliblement nos paroles nous jugeront comme nos actes. Alors à cet instant, frères et sœurs, en songeant à l'usage grandissant des réseaux sociaux, chacun peut mesurer au nom même de son baptême à quelle exigence et de vérité et de bienveillance nous sommes les uns et les autres appelés. En effet, c'est sur les réseaux sociaux aussi que les chrétiens sont invités à témoigner. C'est le pape François qui parlera du continent virtuel. Tant d'hommes et de femmes se connectent et nous sommes invités à donner un témoignage digne de l'Évangile. Ce qui signifie que jamais rien ne justifiera que l'on puisse, en tweetant ou en retweetant, faire ou défaire des réputations ou relayer des informations dont on sait pertinemment qu'elles sont fausses, mensongères. Bref, et c'est tout le sens de la liturgie d'aujourd'hui, on ne peut pas être chrétien en célébrant sa foi, en agissant avec des belles œuvres et concomitamment en ayant des paroles prononcées ou écrites sur les réseaux sociaux qui sont diffamatoires ou non conformes à la vérité. Nous sommes invités à unifier notre cœur. Et seule la parole de Dieu, accueillie, méditée, ingérée, peut venir toucher les profondeurs de notre cœur et produire un fruit non pourri, mais un fruit bon, beau, parfait, que Dieu ne cesse d'attendre de chacune et de chacun d'entre nous. Ce fruit a un nom, miséricorde. Nous sommes tous, par notre baptême, appelés à la sainteté, et nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de bénédiction. Benedicere, dire du bien de Dieu, dire du bien de nos frères et sœurs en humanité.